Cet épisode a été enregistré le 1er mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, Playball. Grande équipe, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 8, c'est présenté par moi, Mike, et le Steve Cohen Wish d'OTP. Comment ça va, Guillaume?
Salut à tous.
Être Metsi, définition du loser qui avait tout pour gagner mais qui le fait un peu exprès parfois. Bienvenue chez les New York Mets. Mais Marty, c'est pas 2023 encore, si? Non, Doc, mais on s'en fout. À la fin, c'est toujours la même histoire. Donc j'ai choisi 1985 pour voir notre film préféré au cinéma, le nôtre. Et oui, parce que les Mets... Loser. Et oui, 75 victoires, 87 défaites, 463 bilans, quatrième à peine devant les Nationals, derrière les Marlins. Et ça, c'est pas mal.
Ouais, ça, c'est cool.
Ouais, c'est pas mal. Un alignement... pathétique au niveau des stats, starting pitcher moyen moins, relief pitcher moyen moins, ils ont un mois de juin qui est cataclysmique avec 7 sur 19, la moitié des victoires sur ces 7, c'était Scherzer sur la butte, on en reparlera avant la trade deadline, on parle de la plus grosse masse salariale de l'histoire de la MLB, 717 points en deçà de la moyenne de la ligue à 747,7 runs scorés. Écoute, le top de l'année en pitching, c'est les blessures, puisque les starters Max Scherzer, Justin Verlander, Rosé Quintana ont tous manqué du temps en 2023, que le closer Edwin Diaz a manqué tout 2023. Sinon, bah, Kodai Senga, All-Star, 7e au Cy Young, Rookie of the Year numéro 2, sans Corbin Carroll, il était plus ou moins indiscutable. 4,7 de WAR, 2,98 d'ERA en 29 matchs, 166 inning pitch, plus de 200 strikeout. Au batting, Francisco Lindor. Franchement, il a une slash line à 2,54, 3,36, 4,70. Il a fait un 30-40 campaign, donc 30 home run, 30 stolen base pour la première fois de sa carrière en MLB. 31 home run et 31 bases volées exactement, 98 RBI, 108 runs, OPS plus à 120. Petite mention pour Alonso Nimo, mais franchement, juste mention, parce qu'en 2023, c'est Lindor qui a fait rayonner les stats des frappeurs des Mets, juste comme ça, pour vous donner un ordre, ils sont 25e en average au global, ils sont 20e en run, 20e en OBP, donc c'était vraiment, vraiment pas bon. Babuck Showalter, un petit tour, et puis s'en va, un peu qui, allez, salut, une fois de plus dans ta carrière, mais ça reste entre nous. Ils nous ont fait la braderie inversée, les Mets, hein. Habituellement, ils allaient dans toutes les équipes, et puis ils prenaient tout ce qui traînait, bah là, ils ont tout donné, hein. Justin Verlander et du cash qui s'en va, on y reviendra sur ce petit contrat. Dominic Leone, Mark Kania, Max Scherzer, David Robinson et Zach Mikanem tous s'en vont pour faire venir Trevor Gott, Chris Lexen, Marco Vargas, Ronald Hernandez, Luis André Acuña, Justin Davis, Jeremiah Jackson, Adam Kolarek, Phil Bickford, Ryan Clifford et Drew Gilbert. On en connaît pas beaucoup dans cette histoire, c'est normal, c'était voulu, il y a plein de joueurs qui partent, mais pas forcément leur salaire, hein. Une débandade et surtout un énorme camouflet pour les Mets. Ils ont été quand même leaders de la ligue, et ça, je tenais à le mettre en avant parce qu'ils sont leaders de la ligue au niveau des pitch clock violation avec les 55. Pecota les voyait premier de la division avec 96 victoires, 66 défaites, 21 matchs d'écart, certainement le plus gros collapse de la saison et l'un des plus gros de l'histoire, peut-être rapport à la money. Donc Guillaume, quand il n'y a pas de post-season?
Eh ben, on passe à l'off-season. Allez, effectif salarial de la saison dernière. Attention, ouvrez bien vos oreilles. 336 millions de dollars! C'était énorme! Et cette saison, il faut s'attendre à quoi? Downgrade, 286,6 millions de dollars. Ça fait un paquet de millions de dollars en moins, 50 millions en moins. Donc, et en plus, il y a 50 millions de dollars en moins, mais par contre, il y a 50 millions de dollars qui continuent à payer pour des joueurs qui sont déjà partis dans d'autres franchises.
Catastrophe.
Donc voilà, ça c'est la catastrophe. On va juste noter les retain salaries. Max Scherzer, ils lui doivent encore 20 millions de dollars. Justin Verlander, ils lui doivent encore 20 millions de dollars. James McCann, 8 millions. Bon, après, Johan Ramirez, 100 000, on peut dire que c'est des broutilles.
C'est de l'argent de poche.
Et attention, il y a toujours des différentes salaries en 2024. Donc, Brett Saberhagen qui a un petit 250 000 dollars et...
Attends, joueur, à 60 ans, Saberhagen.
À 60 ans, mais un des joueurs encore les mieux payés de l'effectif depuis des années, pour encore plusieurs années, Mr. Bobby Bonilla, 61 ans, 1 193 000 dollars. Les enjeux et les attentes avant la post-season, en fait, on savait pas à quoi on s'attendait, puisqu'on savait pas si ça allait être un all-in ou pas du tout. On s'est pas ennuyé. Il y a encore pas mal de trucs qui se sont passés. En arbitration, ils ont évité l'arbitration avec Pete Alonso, première base, Tyon Taylor, right fielder, Drew Smith, reliever, Adrian Hauser, starter, Joey Lucchesi, starter, David Peterson, starter. En free agency, ils ont signé Shintaro Fujinami, reliever pour 1 an, Jake Dickman, reliever pour 1 an, Adam Ottavino, reliever pour 1 an, Sean Manaea, reliever, starter pour 2 ans.
Starter, plutôt, pardon.
Harrison Bader, chansonne pour 1 an, Jordi Lopez, reliever pour 1 an, Michael Tompkins, reliever pour 1 an, Austin Adams, reliever pour 1 an, Luis Severino, starter pour 1 an, Joey Wendell, shortstop pour 1 an. Dis-moi, il y a beaucoup de pitchers quand même dans cette liste. Ils ont perdu Luis Guillorme, deuxième base, non-tendered, Jeff Brigham, reliever, non-tendered, Sam Conrad, reliever, non-tendered, Daniel Vogelbach, DH, non-tendered, Trevor Gott, reliever, non-tendered, Carlos Carrasco, starter, qui a déclaré free agency. En trade, ils ont tradé Adrian Hauser, qu'ils ont récupéré de Milwaukee pour un lanceur Coleman Crowe, Tyron Taylor, un champ droit de Milwaukee également, pareil, dans l'échange de Coleman Crowe, Johan Ramirez, un reliever, qu'ils ont récupéré des White Sox pour du cash, de la money. En contrat de minor league, ils ont pris Jiman Choi et Luke Voit, deux premières bases et DH. Ils vont commencer la saison avec quelques blessés, et notamment Kodai Senga. Ça a été la grosse nouvelle, justement, de la blessure, et surtout qu'il y a no timetable pour son retour, donc ça veut dire qu'on ne sait pas du tout jusqu'à quand. Très, très, très mauvaise nouvelle pour les Mets. David Peterson, starter, qui sera pas là non plus. Et Ronnie Mauricio, infielder, qui devrait peut-être, à mon avis, ne pas être là de la saison, puisque c'est une knee surgery. Le farm system des Mets, 15e. Ventre mou. Donc voilà, ils ont 4 joueurs qui sont dans le top 100. Jet Williams, un shortstop qui devrait arriver en 2025. Drew Gilbert, 53e, outfielder. Double A qui va être en 2024, qui devrait être là. Luis Angel Acuña, le cousin, c'est le cousin ou le frère de Ronald Acuña, enfin c'est la même famille.
Je me rappelle plus, mais c'est la même famille. Vas-y, suis-moi.
Non, j'allais dire 66e, il est déjà niveau MLB, il sera là cette année. Et Ryan Clifford, 97e, outfielder première base, qui est en A+, qui devrait pas être là avant 2026. Tu voulais dire.
Ce qui est intéressant, c'est que le repassé 15e pour le farm system des Mets, qui avait été totalement dépeuplé depuis quelques années, sur les derniers, et notamment à la trade deadline, ils se sont quand même bien renfloués, ils ont quand même bien rebossé. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça c'est plutôt une chose cohérente.
La trade deadline, ils doivent garder du pognon pour payer certains joueurs, mais ça leur a quand même rapporté quelques prospects, et c'est plutôt une bonne chose. Au moins une équipe, contrairement à celle qu'on a fait hier, qui a été intelligente dans sa trade deadline, mais ça, on en reparlera plus tard. Le line-up prévisionnel, catcher Francisco Alvarez, première base Pete Alonso, deuxième base Jeff McNeil, troisième base Brett Batty, shortstop Francisco Lindor, champ gauche Brandon Nimmo, champ centre Harrison Bader, champ droit Starling Marte, DH Daniel Vogelbach, bench sur le banc Omar Narvaez, Mark Vientos, Joey Wendell, Tyron Taylor. Dans la rotation, starter, José Quintana, Luis Severino, Sean Manaea, Adrian Hauser, Tyler McGill, setup Adam Ottavino, closer Edwin Diaz, et dans le bullpen, Brooks Raley, Drew Smith, Jake Dickman, Shintaro Fujinami, Jorge Lopez, Phil Bickford et Kodai Senga. On verra bien si on le reverra cette année. Bon Mike, qu'est-ce qu'il faut retenir et sur qui il faut se concentrer pour la saison prochaine ?
Bah, Francisco Lindor, je pense qu'il y a un moment,
C'est clair.
il est proche top 15 MLB. Je pense qu'on peut en faire pas forcément un sleeper, mais un challenger pour ce titre de MVP. Parce que vraiment, je pense que c'est un gars qui a le potentiel. On l'a tellement défoncé, hein, on a tellement
Ah, c'est clair.
taillé son contrat et tout. Il faut reconnaître que le mec, il faut qu'il reste le leader toute la saison. Je pense que c'est ça qui va être dur pour lui et pour l'équipe. Ça va de l'avoir un niveau constant, tu vois, toute l'année, parce que il va être derrière avec épaulé quand même par du Pete Alonso projeté top 20, qui lui va avoir un gros point d'interrogation. J'aimerais que tu notes ton avis, c'est son contrat, free agency en 2024, saison moyenne en 2022 et 2023, mais bon, attention, année de contrat. Et puis surtout, McNeil-Nimmo, je pense que c'est peut-être un des duos les plus underrated de la ligue. 2023 était bof, mais a vraiment l'image de l'équipe, ils peuvent être des top joueurs. Les deux en duo, ça peut être un potentiel 10 à 10 de war, hein, en duo. Hein. Donc, et pour seulement 30 millions de dollars, les deux. Donc en vrai, quand tu additionnes ces quatre gars-là, t'as quand même dans l'ordre Nimmo, McNeil, Lindor, Alonso, les quatre premiers au bâton, ça c'est quand même dans le haut du panier de la ligue, hein.
Ouais, carrément, carrément, je trouve que ça te fait. Mais et c'est surtout qu'en plus, tu vois, ces quatre joueurs, en fait, ils ont une. Je trouve qu'ils ont une complémentarité. T'as Brandon Nimmo qui t'amène quand même une certaine. Une sûreté en champ, même s'il y a, je pense qu'il y a besoin quand même d'avoir un petit peu plus de champ, mais on va en parler après. Jeff McNeil plus Francisco Lindor au niveau de ta colonne vertébrale, c'est quand même super de les avoir dans ton infield, plus Pete Alonso, et on connaît sa puissance et sa capacité en fait à pouvoir frapper, puisque même sur une saison mauvaise, il frappe quand même plus de 40 home runs, même si c'est pas ce qu'on préfère. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bien dans cette équipe, et il y a de quoi bâtir en fait autour. C'est intelligent d'avoir gardé cela. Mais tu me lançais sur Pete Alonso, donc on va en parler tout de suite. Pete Alonso, effectivement, contracteur à la fin de l'année. La saison en fait va être vraiment déterminante. Et le truc, c'est que en fait aujourd'hui, les Mets n'ont pas encore annoncé savoir s'ils gardaient Pete Alonso ou s'ils allaient le laisser partir. Je pense qu'ils vont le garder, parce que s'ils devaient le laisser partir, ils auraient peut-être proposé, parce qu'il y avait des, je pense qu'il y avait des clubs qui auraient pu être, enfin des franchises qui pouvaient être intéressées là, pendant la off-season, de récupérer un mec comme Pete Alonso. Mais je sais pas, on va voir, hein,
De toute façon, c'est ça, Pete Alonso, c'est un Boras guy. Donc,
parce
on est en année de
que.
contrat, t'es pas à l'abri qu'il te fasse une énorme année avec des chiffres plus ou moins floués, du style genre te frapper 40, voire même 50 home runs. Le gars, il est capable. Et que derrière, il demande un énorme contrat, un contrat qui pourrait l'amener très très loin. Faut quand même pas oublier que le garçon, Pete Alonso, il a 29 ans. Donc, le gros contrat, c'est maintenant qu'il doit l'avoir. Est-ce que les Mets vont vouloir payer ça? Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'ils sont pas trop prêts à le faire. Donc, il y a une vraie question sur Pete Alonso. C'est peut-être un trade cheap, hein, au mois d'août.
Je
Attention,
pense qu'il
attention.
vaudrait peut-être même mieux en partir en trade chip, parce qu'on sait en plus avec l'histoire que Boras fait peut-être un petit peu peur. On verra ce que ce sera la saison prochaine, mais en tout cas cette année.
L'équipe qui aura besoin d'un gros DH qui manquera de puissance ou d'un première base, il va être le numéro un sur toutes les projections de trade si jamais il n'a pas re-signé. Et puis le problème, c'est derrière, en fait, en vrai. Quand tu vois ces quatre premiers, tu te dis que potentiellement, t'as quatre gars qui peuvent être All-Star. Ou qu'ils
C'est ça.
seront, ou qu'ils l'ont déjà été. Et puis après, bah, t'as Starlin Marte, et c'est un gros nom, mais il n'a pas fait 140 matchs depuis 2018, l'avoir négatif l'an dernier, il
Il
a
a 35
35 ans.
ans.
Voilà, 35 ans, il joue en outfield. Là, il commence à passer sur les corners. Stewart et Batty, bah, c'est quand même des joueurs moyens, hein, c'est clair. Hein. Batty, c'est 2 saisons à 2 WAR négatifs. Stewart, il a fait 100 matchs en 2021, sinon il a jamais fait plus de 58 matchs. Et il est projeté titulaire. Bader, c'est un joueur défensif excellent. Franchement, il est très très irrégulier à la batte. Et puis Alvarez, bah, c'est un top prospect qui a eu un petit peu de mal à confirmer. On attend quand même beaucoup de lui cette année. Moi, je pense que c'est une belle surprise qui est possible. Mais en réalité, cet alignement, bah, passe les quatre premiers, c'est pas incroyable, hein. Et puis on en parlera des rotations qu'ils vont devoir affronter plus tard, mais ça va être dur, hein.
Moi, je trouve que, alors, je vais me répéter, mais je trouve qu'elle est équilibrée, même si t'as quatre mecs qui sont devant, qui sont vraiment au-dessus. Ceux qu'il y a derrière sont pas forcément des foudres de guerre, mais ils peuvent t'amener vraiment quelque chose après. C'est la différence de cette année dans le recrutement qu'ont décidé de faire les Mets. Les Mets, ils ont fait des all-in pendant les 3 premières saisons de Cohen, mais
Ils
en
les ont
fait,
fait deux fois par saison.
Ouais, et le problème,
off-season, trade deadline.
Et le problème, c'est que, en fait, si tu prends les premières années de Cohen, bah, t'as les mêmes résultats que la saison dernière, tu vois. C'est vraiment, tellement de pognon dépensé pour au final aucun retour sur investissement. Donc, cette année, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont déjà décidé de faire le ménage dans leur board parce que c'est le bordel, machin et tout. Donc, dans leur staff, ils ont fait le ménage. Et maintenant, ils font le ménage dans le club en essayant de construire un petit peu plus intelligemment plutôt que de dépenser du pognon à tout va. Moi, c'est pas le line-up qui me fait peur parce que le line-up, je me dis qu'il peut s'en sortir. Ce qui me fait peur, c'est quand je regarde la rotation. Et là, la rotation, attention, on n'est pas sur du haut niveau, quoi. Tu vois, on parlait les deux derniers sur certains épisodes qu'on a déjà passés de recrutement intelligent au niveau de la rotation où tu te dis, c'est pas des noms shiny, mais c'est des mecs qui peuvent t'amener quelque chose. Là, aujourd'hui, tu as des noms de mecs où c'est vraiment des paris, quoi. José Quintana, tu le gardes, mais tu sais pas ce que ça peut donner. Luis Severino, on a vu que depuis son retour de blessure, ça avait été mauvais. Sean Manaea, tu sais pas quelle saison il va te donner ou quoi que ce soit. Et là, en fait, le mec qui était censé te tenir ta rotation, Kodai Senga, tu l'as pas et tu sais pas juste jusqu'à quand? Waouh, cette rotation, elle est un peu assez tricky, quoi.
Ouais, et puis Hauser, McGill, ça reste moyen. S'ils sont en bonne santé et qu'ils sont à un niveau qu'on attend d'eux, c'est quand même plutôt une rotation qui est pas mal, hein, franchement. Hein. Mais le problème, c'est que on connaît l'historique des blessures chez les Mets.
Elle est basée sur des what if, en fait. Elle est belle,
exactement.
Elle est belle, mais c'est des what if, quoi.
C'est des paris, et alors le bullpen derrière. Très honnêtement, le Edwin Diaz, Otavino, Brooks Reilly, c'est un beau trio, hein, ça envoie bien. Après, le Smith, Dickman, Fujinami, on n'en parle pas de Fujinami, hein, Jorge Lopez, Phil Bickford, c'est pas les top releveurs, quoi. Donc, ils vont avoir aussi un problème, c'est que quand tu regardes les innings projetés pour la starting rotation, Quintana 160, Severino 138, Manaea 158, Adrian Hauser 128 et Tyler McGill 104. Encore une fois, qui prend les innings?
Ouais, c'est ça. Et puis eux, ils n'ont pas le Capitaine Crochet dans leur équipe, hein, donc à mon avis, ça va pas le faire, quoi.
Bah, ils n'ont pas de long relief projeté, en fait.
Non, c'est ça. Donc, ça va être un petit peu, ils vont être obligés de se partager sur tout le bullpen. Et on sait que c'est d'où l'importance quand même d'avoir un mec qui soit là pour faire du long relief. En fait, tu mets un, c'est quasiment comme si tu avais un sixième starter que tu mets et que tu laisses dans ton bullpen. Et quand t'en as un qui flanche, tu sais que tu vas le mettre et qu'il va te bouffer de l'inning. Et c'est ça, il y a certains clubs qui le prennent. Là, les Mets ont fait le choix de pas en avoir. On verra bien ce que ça va donner à ce niveau-là.
C'est exactement ça. Et puis l'autre question, ça reste sur le coach et Carlos Mendoza, parce que la rumeur le donne second choix suite au refus de Craig Council. Important quand même. C'est comme le gars qui a passé les 4 dernières saisons à épauler Aaron Boone chez les Yankees. Ce serait assez drôle qu'il réussisse chez les Mets et que Boone se foire à nouveau dans le Bronx. Voilà. Je veux pas faire le rageux, mais moi, ça me ferait quand même pas mal rire. Mais ouais, Mendoza, alors, c'est une question.
Non, mais surtout qu'en plus, on a deux transferts des Yankees qui vont chez les Mets, hein, puisque t'as aussi Harrison Bader qui vient directement chez les Mets. Non,
et c'est Severino.
Oui, c'est Severino, je l'avais oublié. Donc, non, mais c'est marrant qu'ils aient fait leur course de l'autre côté du fleuve. C'était plutôt rigolo, quoi. Non, mais tout ça pour dire que, ouais, effectivement, je sais pas, en fait. Je trouve que c'est intelligent ce qu'ils ont fait cette année. Je trouve que c'est un petit peu plus réfléchi plutôt que d'aller aligner des contrats avec des chiffres hallucinants pour des mecs où tu sais pas ce que ça va donner. C'est un petit peu plus réfléchi. Comme tu disais, sur les releveurs, je me pose plus de questions sur l'ensemble du pitching staff. Le line-up, ça devrait aller, mais le pitching staff, ça me pose vraiment des questions.
Posons-nous des questions grâce aux pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion. À tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Et alors, Guillaume, pour les New York Mets, post-season ou pas post-season?
Non, les New York Mets, il n'y aura pas de post-season. J'ai peur qu'ils terminent derrière les Nationals.
Parce que
le 1, ouais.
Ah ouais, donc dernier, en fait.
Je sais pas. En fait, j'aime bien ce qu'ils ont fait, mais je suis pas sûr que ça
clique. Les New York Mets, moi je les vois quatrième, juste devant les Nationals, je les vois un truc genre 75-87. Donc pas beaucoup mieux que les Nationals, mais en vrai, je trouve que les Marlins n'ont pas fait grand chose pour s'améliorer, mais qu'ils étaient déjà pas si mal en réalité. Donc je les vois encore quatrième. Je pense que c'est de la transition et que ils vont faire quelques petits moves. Mais ils vont travailler différemment. Et pour moi, la rotation, elle me fait trop flipper, dans le sens où c'est très très aléatoire. Et surtout, la fin de line-up et les mecs qu'ils ont pour les remplacer, c'est pas incroyable.
Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi.
Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball de notre émission plus visible en France. Alors Guillaume, on se réécoute demain.
Allez, on se réécoute demain sans problème. À plus, ciao. Miguel bate, jaque mate. Miguel bate, jaque mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.